Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde!
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard. Le sarcasme prudhomesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Salut à toutes et à tous en ce jeudi matin où il paraît qu'il va faire beau aujourd'hui. Enfin, on va pas commencer par la météo, mais il paraît. Voilà, il y en a marre de ce temps de merde.
Sauf que déjà en rediffusion, ça fonctionne plus, quoi.
Mais c'est pas grave, c'est pour que les gens nous écoutent en direct. Voilà, bande de feignants, levez-vous. Il est 10h01 pétante. Si vous écoutez cette émission à 19h, c'est pas grave. Couchez-vous plus tard ou levez-vous plus tard. Enfin, faites ce que vous voulez, ne gonflez pas, mais voilà, soyez là, quoi. Alain Guillot.
Oui,
salut.
Présent.
Gilles Margent.
Bonjour, bonjour.
Salut, monsieur Phil à la technique qui donne un petit coup de main à la nouvelle arrivée Chloé qui va bientôt prendre le relais la semaine prochaine, j'imagine. Elle me fait oui derrière la, vitre avec des grands yeux. C'est pas compliqué, Chloé. Tu verras, on n'est pas chiant et il n'y a pas tant de technique que ça dans cette émission.
On n'est pas chiant, pas toujours.
Pas tout, alors,
ça dépend lesquels.
Ça dépend lesquels.
Au sommaire aujourd'hui, oh là là, avant de commencer par le sommaire, on va quand même vous dire directement qu'on est content parce qu'on a reçu un petit mail d'un pote, d'un vieux pote. Alors on lui fait un gros coucou.
Un vieux pote, Bertrand.
Moi, ce qui me concerne, c'est un vieux pote.
Voilà, ah bon, pour toi,
super bassiste. 1m98 quand il a sa basse dans la main, on a l'impression qu'il joue de l'allumette, mais voilà, salut Bébert si tu nous écoutes. Alors il nous a fait un petit mot, Bertrand, donc on va évidemment, on l'a reçu par mail, on vous expliquera après que vous pouvez également nous envoyer des mails, on vous dira comment. On va commencer par lire quelques extraits de ce courrier très sympathique. Salut les tontons, attention, je m'exprime. Si je peux me permettre, voilà mon avis, vous devriez traiter moins de sujets, mais plus en profondeur, tu vois, depuis le temps qu'on le dit. Les revues de presse, c'est bien, mais si vous ne prenez pas le temps de décortiquer l'info ou de carrément sortir du déroulement prévu de l'émission pour développer un sujet qui ferait débat entre vous trois, vous allez obtenir comme souvent une logorée verbale d'initié, informative certes, où se croisent les opus des I appareils, ceci et cela, et autres allusions aux pouvoirs occultes qui nous limitent, entre parenthèses. Pourquoi à chaque fois qu'un sujet intéressant pourrait devenir passionnant, on a le droit au fameux « oui mais là on va pas s'étendre, on fera une émission là-dessus plus tard ». Je vous dis messieurs, étendez-vous. Est-ce l'approche des élections qui vous rend de plus en plus politiquement correct? Et le vieux il veut plus causer, il est fatigué pépère, on l'a tenu plus aiguisé. Il y a plus que des vieux dans cette antenne, donc on sait pas de qui il parle.
Je pense que ça m'est destiné.
Tu crois que c'est pour toi?
C'est
ça.
Une horreur, ce mec.
Ce bébé, c'est
aucun respect.
Au fait, il est où le droit à l'insurrection? Pour une fois que l'on nous rappelait nos droits et devoirs, pauvres citoyens ignorants et abrutis que nous sommes, ça c'était du service public, de l'altruisme et du pertinent. Alors il nous dit, pour finir, ne vous coupez ni ongles ni griffes, messieurs, continuez à flinguer dans le velours ou dans le suave, comme vous voudrez, mais continuez à flinguer. Vous avez la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours, ne gâchez pas, et surtout ne soyez pas inquiets, vous ne serez pas seul au jour du grand soir. Bertrand, paysan réfractaire.
Ouais, il faut noter, il est pas simplement bassiste, il est paysan réfractaire quand même, c'est un vrai paysan, voilà. Un vrai de vrai.
Alors moi je vais dire, mon pote, vu le temps que tu viens de passer à faire ce courrier, la prochaine fois tu prends ta petite voiture et tu viens prendre ce temps dans l'émission, et franchement on va pouvoir échanger, ce sera plus sympa que de le faire.
Oui. Il peut téléphoner, évidemment, bien sûr.
Merci en tout cas pour ce courrier, ça fait plaisir.
Sympa, ça.
Voilà.
Génial.
Au sommaire aujourd'hui...
Aucun respect des vieux, mais c'est sympa quand même.
Ah bah écoute, il est dans le non correct et on aime ça.
Ça c'est parce qu'il se prend pour un jeune peut-être aussi. Voilà, Bébert, tu n'as plus 20 ans.
C'est un truc qui ne dure pas de toute façon.
Je vous rappelle que vous pouvez évidemment, pour cette partie en direct, c'est-à-dire entre 10h et 11h ce jeudi matin, nous passer un petit coup de fil, 05 65 49 29 94, 05 65 49 29 94. Mais également, nous faire suivre sur le tout nouveau site de Radio Sainte-Afrique vos commentaires, puisqu'il y a une page avec les tontons. Vous pouvez, vous le savez pour la plupart d'entre vous, réécouter cette émission quand vous le souhaitez, mais également nous laisser les petits messages, puisqu'il y a un espace réservé, on vous répondra avec plaisir. Fournissez-nous les sujets, engueulez-nous, on adore ça. Voilà. Au sommaire, on y arrive quand même après 40 annonces. Alors le sommaire, il est chargé encore aujourd'hui. Bébert, on va avoir du mal à rentrer au fond des choses, mais on va essayer. Évidemment, on parlera des Verts. Les Verts ont-ils vendu leur chemise? C'est quand même une bonne question par les temps qui courent. Alain veut nous faire, et on sera ravis d'y participer, un petit topo sur le Téléthon. Il sera intéressant quand même de parler du troisième plan de rigueur déjà en cours. Alors la journée de carence, le RSA, le fraude de la Sécu, les suppressions de postes partout, enfin que des bonnes nouvelles. Et Gilles, toi, tu nous mettras un peu de baume au cœur avec avec la nouvelle émission de Frédéric Lopez.
Ah, le bonheur, voilà. Les recettes du bonheur.
Ça faisait un peu peur, mais il paraît que c'est bien, tu l'as vu.
Oui, j'avais un petit peu peur, je me suis dit, tiens, je vais regarder comme ça, puis je vais vite zapper sur ta DI après, et je me suis laissé prendre.
Ben voilà.
Tu vois l'allure satisfaite du valétudinaire sur le retour.
Voilà, et on commence dans cette émission, je trouve qu'on parle quand même pas mal de sexe depuis le début, là.
Je
me suis laissé prendre, Bébert qui nous dit d'aller plus profond, enfin, va falloir se calmer, mais c'est même
c'est toi qui as de mauvaises idées.
Peut-être, le matin, c'est moustillant.
Alors, remarque, je vais dire, on peut souvent nous reprocher de penser qu'à ça, mais le jour où on n'y pense plus, tu vois la tête
qui fout la merde. C'est vrai que ça fout sérieusement la merde. On commence tout de suite, évidemment, par le gros sujet. Alors, on a essayé justement de détailler un petit peu là, parce que
quand même, tu le sens, mon gros sujet.
Ouais, c'est un petit peu compliqué. Alors, bon, tout le monde a compris autour de. On fait des émissions régulièrement autour de cette crise européenne. On essaye nous-mêmes de comprendre en temps réel pour essayer de vous donner quelques billes en temps réel. Et plus on avance évidemment dans la compréhension des choses, et plus on se rend compte qu'il y a des paramètres qui se répètent, et il est nécessaire, très important, qu'on vous les communique. En l'occurrence, sur ce sujet, de quoi s'agit-il ? Bon, tout le monde a compris que la crise actuelle avait quand même pas mal brouillé les cartes, et entre autres brouillé les cartes des pouvoirs, un petit peu partout en Europe. Alors, la question qui se pose, c'est finalement au profit de qui ? Et donc, on est obligé de se poser la question en d'autres termes, est-ce que ce sont maintenant les marchés et les agences de notation qui décident des élections un petit peu partout en Europe ? Nous avons donc fait le choix de nous intéresser...
Ouais, détends-toi, t'es tout de suite devenu sérieux et tout.
J'ai pas
bu
mon café, mon poulet, c'est tout, j'ai pas eu le temps de boire mon café, il est à côté de moi, il va refroidir, c'est pas du tout sympa. Voilà.
Vas-y, enchaîne.
Les nouveaux élus en Italie, en Grèce, ainsi de suite, on a voulu savoir
qui
avait un petit
ce
peu...
ne sont pas des élus, alors là je m'insure,
voilà,
ces gens-là...
Gueuler, vas-y.
Ben ouais, ces gens-là ne sont pas passés devant le peuple. Ils ont été nommés. Hein. Il n'y a aucune élection qui les a mis au pouvoir. Quoi. Il faut quand même insister là-dessus. Ce sont des hommes politiques, que ce soit en Italie ou en Grèce. On nous a trouvé des... Et puis alors on apprendra, enfin je ne veux pas déflorer le sujet, hein, mais ils viennent tous du même endroit comme par hasard, et d'une banque américaine. Hein. Ils sont tous passés par là. Et donc je ne comprends pas. Moi, c'est un déni de démocratie total, quoi. Hein, on met des gens à la plus haute place d'un État, certes, qui va pas très bien, hein, en Grèce et en Italie non plus, mais sans être passé devant les électeurs. Ouais. Je trouve ça quand même assez affolant.
On rappellera, tu dis qu'il va pas très bien, je vais juste glisser cette petite info que j'ai chopée hier soir. La dette, le déficit public allemand est plus important que le déficit public espagnol. Et ça choque personne.
Et le déficit américain est abyssal, etc.
15 000 milliards de dollars annoncés ce matin, ils viennent de passer.
Je suis de plus en plus intéressé par le discours sur la démocratie.
Ah oui, là on va y arriver plein pot là. Alors, on a une info, et cette info elle fait tilt. L'info c'est quoi ? On sait que Michel Barnier, là on va revenir si un petit peu sur les agences de notation, mais pas au début. Barnier, grosso modo, pour synthétiser, il y a quelques jours, dit à la Commission européenne, il dit, bon moi j'en ai marre maintenant, faut réguler les agences, parce qu'on a vu évidemment la fameuse sortie de Moody's, c'est ça ou c'est Standard & Poor's, je ne sais plus laquelle des deux, enfin, est sortie la semaine dernière avec un gadin en disant que la note française était déjà dégradée.
Ah bah c'est une mauvaise dépêche AFP
c'est Standard & Poor's, je crois.
Je ne sais plus laquelle, mais enfin, oui, c'est Standard & Poor's. Ouais,
donc
oui,
ça, voilà, ils sortent une dépêche, ils se trompent soi-disant, ils annoncent que la note française est dégradée, on panique sur les marchés, annulation de cette dépêche dans les 10 minutes qui suivent, petites excuses,
mais le mal était
voilà,
fait.
Voilà, grosso modo, pour synthétiser, Barnier monte à l'Europe sur son cheval blanc et dit « Ouais, mais ça suffit, il faut réguler les agences maintenant parce que c'est pas possible qu'elles continuent
de... » Qui note les agences ?
Voilà. Alors, la Commission européenne vient de décider ce mardi, et ça n'étonnera personne, de différer le débat sur l'encadrement des agences de notation. le principe est très très clair. Michel Barnier a déjà dû renoncer au projet de la création d'une agence européenne. Pourtant, ça fait 2 ans qu'il le demande. Les rapporteurs du texte sur les agences de notation au Parlement européen, et entre autres le socialiste italien Leonardo Domenici, a jugé que la proposition présentée par Barnier était dépourvue de certains éléments importants. Le fait qu'un long débat ait lieu sur le sujet est une mauvaise augure pour une législation de cette importance, parce que franchement, c'est pas bon. Ça va envoyer un signal négatif au marché. Voilà, hein, j'ai fait bref, ainsi de suite. Alors sur cette base,
attends, rassure-moi, c'est pas un discours de socialiste, ça.
C'est un socialiste italien. On sait où ils en sont, les Italiens, avec le socialisme. Hein,
les Italiens.
Il n'y a pas que les Italiens.
Oui, à mon avis, il y a le débat. T'as raison, élargis le débat. Gros grosso modo, alors on part de ce constat, de cette information-là, et on se dit, mais bon, donc les agences de notation sont totalement
intouchables. Le lapsus est révélateur.
Oui, parce que c'est la suite. Les agences de notation sont intouchables. C'est la question. Alors, première question, messieurs, à votre avis, les agences de notation sont-elles intouchables ?
Ben, on casse pas le thermomètre, hein. C'est pas ça qui fait tomber la fièvre, hein, de toute façon. C'est ce que ça existe. Alors, c'est récent, hein, cette histoire-là, ou tout au moins récent qu'on le sache
et qu'on en parle.
C'est les banques qui avaient besoin d'un outil pour mesurer la fiabilité des marchés et la fiabilité des pays en général. Et donc, ils ont créé les agences de notation qui, avec des critères qui leur appartiennent, mettent des petites notes comme ça, justement, comme à l'école, quoi.
Ouais, mais moi je pense qu'en plus, si tu veux, ça a été fait dans le but de fournir des prétextes supplémentaires au moment où on discute sur les processus économiques, quoi. Hein, ça, tu sais, le nombre d'endroits où il suffit simplement de modifier la référence pour entendre un raisonnement complètement annexe, quoi.
Ce qui est complètement fou, enfin, je sais pas, on y viendra peut-être après, c'est les mêmes qui demandent aux agences de notation de faire ce boulot-là, mais c'est les mêmes qui ont aidé à maquiller les comptes grecs pendant des années.
Effectivement, c'est la suite, c'est un petit peu
donc
la logique.
C'est jugé parti en permanence.
Mais c'est important d'expliquer pourquoi.
Il suffit de changer la référence pour que ça devienne un prétexte. Voilà. Et on s'appuie là-dessus pour trouver d'autres argumentations. Mais tout ça, c'est bidon, en fait. C'est bidon. C'est le grand guignol, ça.
C'est très important, l'histoire de la référence, parce qu'évidemment, la manipulation, elle commence là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on définit que ça devient la norme de pensée, qui a défini que ça, c'était la norme de pensée. D'ailleurs, la suppression de la démocratie commence là également, quand ce sont des références que le peuple n'a pas choisies, qui servent de régulateurs à l'ensemble des actions ou des pensées.
Oui, c'est ça, oui, d'ailleurs. C'est pas seulement économique, hein, j'allais presque dire, c'est là comme ailleurs.
Voilà. Alors, moi, je vous propose quand même très brièvement on avait dit qu'on le ferait, donc on va le faire. C'est quoi une agence de notation financière, quand même, expliquer un petit peu, parce qu'il va y avoir vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors, bon, tout le monde a compris, c'est un organisme qui est chargé d'évaluer financièrement.
C'est un outil de mesure.
Voilà, qui évalue divers acteurs économiques. Alors, ces agences importantes n'incluent aucun critère environnemental ou social dans leur notation. Hein.
Ni
les seuls
humain,
critères
ni
d'évaluation, humain. C'est les critères financiers. Les notations sont évidemment étudiées attentivement par les marchés. Alors, il faut bien comprendre que les agences de notation financière sont des entreprises qui sont rémunérées par celui qui veut être noté.
Par les banques.
Oui, attends. Plus large que ça. Par celui qui veut être noté.
C'est-à-dire, la France paye Standard & Poor's.
Attends, on fait un exemple. Radio Saint-Afrique, pour que tout le monde comprenne bien, Radio Saint-Afrique veut obtenir une note pour être crédible auprès des marchés.
Bah, Médiamétrie, par
exemple. Radio Saint-Afrique va payer Standard & Poor's pour lui donner une note.
Oui, mais attends, quand un État veut être dans un mécanisme comme ça, quand tu dis c'est l'État qui paye, mais l'État paye parce qu'il a emprunté de l'argent aux banquiers.
Voilà, on est bien d'accord, mais là, c'est pas que l'État.
Moi, j'ai pas la même source. Moi, j'ai la source du fait que ce sont les banques qui demandent et qui financent les agences de notation.
Il ne s'agit pas que des banques. Non, c'est pas si simple. Vous allez voir, c'est pour ça que c'est très important qu'on fasse le point. Les agences de notation financière sont des entreprises rémunérées par le demandeur de notation. Ça, c'est un premier paramètre important, quel qu'il soit. Alors, qui elles sont, ces agences ? En 2010, grosso modo, il y en a 150. Il y en a très peu qui ont une vocation mondiale. Il y en a trois. Hein, on les appelle le Big Three. Les trois, c'est 94% du chiffre d'affaires. Il y a Moody's, Standard & Poor's et Fitch Rating.
Ah tiens, je ne le connaissais pas, celle-là.
Bon, 14% seulement. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Moody's et Standard & Poor's, c'est 40% chacun du marché.
Oui, 14%, ça ne fait pas beaucoup. Hein.
Voilà. Non, ça ne fait pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Alors, les agences, elles sont agréées et elles doivent remplir certains critères qu'on va citer très vite.
Mais elles sont agréées par qui ?
Elles sont agréées.
Par eux ?
Elles n'en parlaient pas. Non. Tout le monde a son mot à dire. On va le voir un petit peu plus tard. Elles doivent remplir le critère d'objectivité. Les méthodes de notation doivent être rigoureuses, systématiques et pertinentes. L'indépendance. Les agences de rating ne doivent pas être des institutions publiques, ni compter des banques dans leur actionnariat. Cela amènerait des conflits d'intérêts, nuisible à un jugement indépendant. On va voir après ce qu'il en est réellement. La transparence. Les notes doivent être accessibles à tous. L'information du public et la crédibilité, qui est le résultat du respect de tous les critères précédents.
Donc c'est une faute professionnelle d'avoir balancé une nouvelle totalement
énorme,
fausse.
C'est une faute totalement énorme, c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils ont été attaqués plein pot. Alors la fameuse indépendance des agences, vous allez comprendre ce qu'il en est. Il faut savoir que ces agences, elles existent depuis les années 1920. Hein, c'est pas nouveau, c'est 1920 les premières notations.
Oui, oui, c'était pour évaluer, je sais plus, les trains américains. Voilà. Au départ, c'était l'équivalent de la SNCF américaine.
Vous allez, retenez bien, vous allez bien comprendre, 1920, cette date est fondamentale et le fait que tu parles de train aussi, parce que ça, on va y revenir très bientôt dans l'émission.
C'est le train de l'histoire.
Oui, tu vas voir pourquoi.
Condition de le prendre en marche.
Dans les années 1920, le problème, c'est que la structure du marché, évidemment, a énormément évolué et les relations entre donneurs d'ordre et agences de notation sont particulières parce que depuis le départ, et c'est bien reprécisé, l'agence est employée par l'acteur qui souhaite noter, ce qui soulève la question de l'indépendance. Alors la confiance du marché dans cette indépendance repose sur une idée très simple. Une agence de notation, elle doit préserver sa réputation. En d'autres termes, une agence ne pourrait pas prendre le risque de surnoter un de ses clients par peur de perdre sa crédibilité sur l'ensemble des affaires. C'est le seul critère de
Mais ils peuvent sous-noter, en revanche.
Alors voilà, c'est le seul critère d'objectivité. Oh,
j'aime bien quand tu dis c'est le seul critère d'objectivité. Ouais.
Alors, le mécanisme de réputation, évidemment, il y a quand même pas mal d'objections. Et entre autres, il y a un chercheur américain qui a dit « Attendez, vous avez vu les fiascos de ces agences ? Ils ont surnoté Enron et les subprimes en pleine crise. » D'un autre côté, c'est complètement bidon, parce que si une agence avait refusé de donner une bonne note aux produits structurés pendant la crise des subprimes sur les agences immobilières, elle se serait pas privée d'une seule notation, mais de 42% de ses revenus. Et ensuite, quand on dit, lorsqu'un nouveau produit financier est introduit par les mecs qui nous magouillent les produits financiers, là, le mécanisme de la réputation, il n'a aucun sens, puisque aucune agence ne peut, par définition, avoir une réputation sur la notation d'un produit qui n'existe pas. Donc c'est un argument totalement fallacieux et bidon. Et alors on va évidemment passer, Gilles, je vais te donner la main.
Et donc c'est pas la première faute professionnelle qu'ils font. Le coup des subprimes, on le rappelle, c'était des emprunts toxiques. Hein.
C'est la crise de 2008.
C'était du revolving de 2008 qui a foutu les États-Unis à genoux et a mis je ne sais combien de milliers de gens à la rue.
Ouais. Toi tu parles de faute, on peut parler de choix peut-être. On va voir après.
Pour moi c'est une faute. C'est une faute dans le sens qu'ils avaient très bien noté ça. Quoi.
Alors c'était
une faute professionnelle, moi je considère qu'il ne s'agit que d'une erreur stratégique.
Voilà, ou d'un choix stratégique devant déboucher sur des erreurs, on verra avec quelles conséquences. Alors on apprend effectivement début 2008 que Moody's a donné par erreur la notation la plus haute à des produits structurés qui ont créé la crise des subprimes. Alors ce qui nous intéresse plus, c'est le rôle dans la crise grecque. Parce que là, effectivement, on va y venir. Il y a des conséquences qui ont été critiquées absolument partout parce qu'ils auraient jugé, Gilles, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé pendant la crise grecque. Qu'est-ce qu'auraient fait ces agences de notation avec l'aide de banques ?
À ce moment-là, il y a une banque, alors on va la citer 15 000 fois aujourd'hui, s'appelle Goldman Sachs, l'homme en or. Hein, c'est quand
très
même,
important.
C'est quand même prémonitoire, je ne sais pas. Enfin, c'est un truc assez fou. C'est une banque qui existe depuis 1869, exactement. Exactement,
bien joué,
qui a créé cette époque-là. Non, je me rappelle parce que c'est juste un siècle avant 69. Donc,
oui, puis parce que tu étais parti. Voilà, hier, tu as essayé de me faire la vanne pendant la conférence de rédaction. Et
c'est comme ça que j'ai mémorisé.
J'aime bien ces moyens mnémotechniques.
Voilà, j'ai des moyens mnémotechniques qui me concernent.
Toujours sexuel.
Ah ben bah oui, écoutez, c'est comme ça. Et donc, cette banque a aidé, moyennant finance, à magouiller les comptes grecs. Parce que là, maintenant, on dit, ouais, si on avait su, fallait pas les prendre. Même Sarkozy a reproché à Lionel Jospin d'avoir été là à l'époque où où l'Europe a accueilli la Grèce en son sein, si je puis dire, et qu'il fallait pas les accueillir, nanana, etc. Et là, cette banque américaine, Goldman Sachs, a perçu quand même 300 millions de dollars pour maquiller les comptes grecs. Et c'est ces mecs-là, maintenant, qui placent des hommes politiques dans les pays qu'ils ont ruinés. Je sais pas, enfin, il y a vraiment un truc. Donc, le nouveau président, enfin, le président du Conseil italien et le nouveau président grec, Papademos, là, ces deux mecs sont des agents de Goldman Sachs. Ils sont passés par Goldman Sachs. Ils sont passés tous par les mêmes universités, Yale en général. Ils ont tous été formés au même moule. Ils sont passés dans la même banque et comme par hasard, on les retrouve à la tête des États.
Ils appartiennent tous à ce groupe dont on a évoqué l'existence une fois. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire le crâne et les os.
Très important, effectivement.
De l'université de Yale. Tous. Yale.
Ils viennent tous de Yale.
Tous, ils viennent de Yale.
Alors, on va repréciser pour vous resituer, parce que ce que vient de dire Gilles, effectivement, c'est totalement juste, et c'est quand même un peu le contenu de l'émission. Donc, on va le détailler un tout petit peu, parce que c'est très important. Je rappelle quand même que Cécile Duflo, sur le
Bertrand,
journal...
Bertrand, on va au fond, là.
Voilà, on va au fond. Cécile Duflo, vous allez voir à quel point on va au fond, c'est que Cécile Duflo, hier, sur le journal de la 2, qui était invitée pour d'autres raisons, bien sûr, pour s'expliquer du grand bordel avec le Parti Socialiste actuellement, a quand même glissé un moment dans la discussion, et c'est la première fois que je l'entends, qui a répondu au journaliste Pujadas en l'occurrence, monsieur, je n'ai pas envie que en 2012 le Premier ministre soit élu par Goldman Sachs. Et ça m'a fait halluciner d'entendre ça sur le journal du 20h hier, donc on est vraiment en plein dans l'actu.
Seulement,
c'est qu'il n'y a pas grand monde qui peut comprendre ce que ça sous-entend. Donc la raison, ça valait le coup vraiment de l'expliquer aujourd'hui.
Bah, on essaye de comprendre. Est-ce qu'on a compris? Parce qu'on se fait peut-être complètement abuser. On est dans un monde quand même complètement de manipulation. Là. Qui manipule qui et pour quel but, quoi.
Ça vaut le coup quand même de rappeler qu'en 2008-2010, il y a eu une crise économique et que la Grèce a été le premier pays vers lequel on a pointé le doigt en disant oui, les Grecs, nanana. Petit rappel quand même, l'économie de la Grèce était une des plus dynamiques de 2000 à 2007 de toute la zone euro avec un taux de croissance de 4,2%. Surtout parce qu'il y avait des capitaux étrangers. Ils avaient une économie très dynamique. Ils avaient une baisse des taux d'intérêt grâce à son entrée dans la zone euro qui permettait à la Grèce de financer tous les déficits structurels. Depuis son entrée dans la zone euro, la dette publique a toujours était supérieure à 100% du PIB. Il faut savoir que la crise financière de 2007-2010 et la crise économique qu'on suivit les a beaucoup touchés, ça on le sait, mais surtout sur deux principaux secteurs économiques qui sont le tourisme et le transport maritime, qui ont été très affectés, qui ont vu leurs revenus chuter de quasiment 15% en 2009. Alors le taux de chômage en Grèce, deux chiffres très vite, 10,3% au quatrième trimestre 2009, c'était 7 l'année d'avant. La dette publique, 142,5% du PIB, 158% fin 2011. C'est quelque chose d'un peu énorme. Alors la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à la Grèce, mais vous allez vous expliquer quand même sur les instruments financiers auxquels vous avez eu recours pour dissimuler cette dette, parce que vous avez trompé l'Europe. Et alors il y a un type là qui s'occupait de la dette publique grecque de 1999 à 2004, qui dit effectivement la Grèce a utilisé sur les conseils de Goldman Sachs des contrats pour décaler artificiellement de plusieurs années le paiement des intérêts de sa dette. En 2002, la banque Goldman Sachs a ainsi permis à la Grèce de lever 1 milliard de dollars de financement hors bilan. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce qu'effectivement, on va voir qui on a mis à la tête de la Grèce pour résoudre le problème. C'est un monsieur que tu as cité, Gilles, qui s'appelle monsieur Loukas Papadimos. Ce monsieur était gouverneur de la Banque de Grèce entre 1994 et 2002, à la personne concernée.
Je ne vois pas pourquoi tu fais un lien entre tout. Je comprends pas.
Moi non plus.
C'est un amalgame de journalistes.
Je rappelle que monsieur Papadimos, je redis ce que je viens de dire, était gouverneur de la Banque de Grèce entre 1994 et 2002, c'est-à-dire pendant la période de la catastrophe. Puis vice-président de la Banque Centrale Européenne jusqu'en 2010.
Je peux faire une vanne?
Bien sûr,
alors, c'est possible, alors c'est pas moi.
Et si tu fais une vanne, tu l'ouvres. Hein.
C'est le canard enchaîné toujours de mercredi. Pour sortir la Grèce de la crise, après Papa Andréou, Papa Demos, mais ça papatine toujours.
Ouais, on va mieux comprendre.
Excellent.
C'est mignon, c'est le canard, c'est ça. Hein, ça baisse le canard
c'est
un peu.
C'est sympatoche.
On va comprendre mieux.
Sympa patoche.
Pourquoi ce monsieur Papadémos est quelqu'un de tout à fait adapté pour régler le problème de la crise grecque actuelle? Puisque ce monsieur, pendant 7 ans, pendant toute la période concernée, il a servi, il a aidé son pays à faire le passage à l'euro. Il est même en 2002, tout de suite, une fois que la Grèce est rentrée dans l'euro, c'est très fort, il est devenu vice-président de la Banque Centrale Européenne tout de suite derrière. Rappelons donc qu'on est en train de nous prendre un type qui a hautement contribué à magouiller avec Goldman Sachs pour camoufler les dettes de son pays et qu'on le prend actuellement pour... donner des solutions sur lui-même a créé sauver le pays
avec plein de guillemets hein.
Voilà. Alors
et pourquoi
problème,
tu dis Sachs au lieu de Sachs?
C'est Sachs,
c'est CHS, c'est Goldman Sachs, enfin c'est comme ça que je l'entends un peu partout.
Ah ben sûrement, ouais,
voilà. Ça, non, je te d'accord, c'est un détail.
Ça se prononce
comme Sachs, pour moi c'est comme Maastricht ou Maastricht.
On s'en fout de Tatrix. Alors le problème étant, messieurs, que se passe-t-il en Italie? Alors en Italie, ben pareil, quelques années après la Grèce, l'Italie va pas bien, on dégage Berlusconi, personne pleurera.
Mais voilà, on commence à le regretter. Les Italiens se disent merde, on commence à s'ennuyer et tout. On rigolait bien.
On rigolait plus, il n'y a plus de bonga bonga. Alors, qui nous ont mis? Nous ont mis un professeur, monsieur Mario Monti.
Ah putain, il n'a pas l'air gay. Hein.
Ah non, il n'a pas l'air gay. Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il n'a pas l'air gay.
Non. Donc, le bongo bongo continuera peut-être. Mario Monti, chef du gouvernement et ministre de l'économie, les deux postes, lui, carrément. de casquette. C'est la première fois qu'on voit ça.
Sans élection.
Sans élection. Alors, ce monsieur est un sauveur. Alors, on va quand même préciser que ce monsieur était commissaire européen au marché intérieur en 1995, qu'en 99, il était commissaire européen à la concurrence, et puis qu'après, en 2004, quand il en a eu marre de faire du service public, il est redevenu, en 2005, consultant pour Goldman Sachs.
Ah, en vérité,
ouais. Non.
En vérité, le sauveur.
Mario Monti, diplômé de l'Université de Milan en économie management et de l'économie de l'Université d'Yale. 94, Commission européenne avec une radicale, il travaille pour Berlusconi. 95, Santerre lui confie le portefeuille de marché intérieur des services des douanes de la fiscalité. Après, il part avec la gauche, il change. D'ailleurs, il est donné comme sans mouvement politique. Hein. Intègre la commission
Prodi. Les financiers font pas de politique. Hein.
Voilà, c'est bien connu. Alors, ce monsieur, il est super, lui, parce que ce monsieur, il est membre d'un groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe. Et alors, il est très intéressant. Depuis 2010, il est président également de la section Europe de la commission trilatérale. Et il est également membre du comité de direction du groupe de Bilderberg depuis cette époque. Précisons quand même que ce monsieur a participé à plusieurs reprises aux états généraux de l'Europe, un rendez-vous d'une société civile européenne organisé par un think tank qui s'appelle le Mouvement Européen. Ça te dit quelque chose, Alain?
Oui, ça me dit quelque chose.
Qu'est-ce que ça te dit alors, le Mouvement Européen? Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Moi, j'ai rien à en dire, sauf que j'exècre ce type d'organisation.
Voilà. Ah ouais?
Oui.
Ça fait partie des trucs
occultes. Ça me rappelle le mouvement qui s'appelait Europe Unie. C'est farci d'extrémistes, ça.
De gauche comme de droite, d'ailleurs.
Absolument.
Hein, on a appris hier que des gens qu'on n'aurait pas imaginé. C'est pas Cohn-Bendit qui fait partie.
Ah, il fait partie de la branche française. Il a fait partie de la branche française.
C'est quand même assez étonnant pour un ex-68.
Ça a toujours été des intégristes.
Et Pierre Moscovici aussi.
Ah bon?
Ah oui! Ah oui, d'accord. Vous allez voir, c'est très intéressant, le mouvement européen.
On retrouve des gens. Mais alors, moi, il y a un truc, je me mets un petit peu à la place des auditeurs. Vas-y. C'est que là, on se dit, ça y est, on est effondré, quoi. Quand on apprend tout ça, on se dit, c'est pire que la caricature des guignols avec la firme. Hein, ils sont toujours de façon cynique après se foutre de la gueule de tout le monde, de broie.
La firme, mais c'est le surnom officiel de Goldman Sachs, il faut le savoir. Hein.
Mais c'est cette caricature qui dénie tout humanisme, rien. Je veux dire, ils sont capable de casser aussi bien des gamins que n'importe quoi, et tout ça en ricanant, et pour faire du pognon et faire gagner la firme, c'est le seul but. Quoi.
Bah voilà. Mais tu vois, quand on parlait, je mets une parenthèse, Gilles, on parle très souvent de non pas de grands complots, parce qu'on veut pas tomber dans cette logique
Cependant, on y est.
N'empêche que toi, et ça me fait plaisir, c'est pas faire insulte à ta carrière de journaliste, que de dire depuis quelques semaines, quand on fait les conférences de rédaction, c'est vrai que le débat change énormément, parce qu'on se rend compte, tous les éléments donnés, qu'il y a peut-être pas un grand complot, mais en tout cas qu'il y a quand même une sacrée convergence des objectifs. Et que tout débouche sur les mêmes Alain.
Eh oui, non, puis tu comprends, je crois qu'il faut aussi être raisonné, voire raisonnable au niveau de la réflexion. À partir du moment où on est dans des états de délabrement, inévitablement, c'est là que on commence à s'intéresser à tout ce qui, depuis des décennies, si tu veux, participe et du pouvoir et des contre-pouvoirs. Maintenant, je dirais qu'il y a une partie des contre-pouvoirs. Je suis quelque part un peu satisfait qu'ils existent, hein, parce que pour se battre aujourd'hui et pour tenir la carte haute à des aux machines de guerre comme celles qui viennent du Vatican. Comme l'Opus Dei et le reste, il faut quand même en face, si tu veux, des contre-pouvoirs, autrement dit.
Mais qui? Lesquels? Vas-y, des noms.
Les adversaires traditionnels de tous ces intégristes qui sont au niveau intellectuel largement du. Le problème, si tu veux, c'est que quand tu as des luttes, parce que c'est traditionnel, tu as la lutte entre le pouvoir et les contre-pouvoirs, c'est pas parce que momentanément le contre-pouvoir, je dirais, a perdu devant le pouvoir, que le contre-pouvoir est moins bon que le pouvoir. Ça vient essentiellement du fait que, circonstanciellement, le pouvoir est meilleur qu'eux. Ce qui est complètement différent.
Ouais, mais quand tu parles de contre-pouvoir, c'est quoi, c'est la presse, c'est qui?
Les contre-pouvoirs, c'est tous les gens qui
on les voit pas beaucoup, je trouve.
Mais non, mais qui discrètement ou ouvertement, si tu veux, je crois que ça passe par l'information, bon, il y a des choses qui ne... C'est, il est toujours difficile, si tu veux, de livrer un certain nombre de réflexions. À partir du moment où elles sont nommées comme étant de telle ou telle origine, en général, elles sont connotées. Donc, je pense que les moyens de communication moderne sont tellement rapides qu'il faut éviter de commettre l'erreur, si tu veux, d'être connoté. Il ne faut pas prêter le flanc
on
à
est
la confusion.
On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord complètement. C'est pour la raison pour laquelle on essaye le plus
rester
possible
dans
de...
l'ombre et dans le...
Non, d'être objectif.
Non, mais si tu veux, l'ombre, ce que tu appelles l'ombre, j'appelle ça simplement l'efficacité de la discrétion. C'est exactement la même chose que dans certains actes...
On y arrivera de plus en plus.
Dans certains passages à l'acte, je veux dire, de révolutionnaire.
C'est toute la différence entre le militantisme et la résistance. Le militantisme se fait au plein jour, la résistance
absolument.
Se fait d'une façon
différente. Et je ne suis pas un militant.
Nous ne sommes bien d'accord. Je vous rappelle qu'on parlait de Mario Monti, donc du monsieur qui vient d'être élu comme le sauveur à la tête de l'Italie. Le mouvement européen, je reviens parce qu'il fait partie du mouvement européen, c'est quand même très important.
Les carottes sont cuites.
C'est une association internationale dont le siège est à Bruxelles et qui fédère, bon, grosso modo, des gens qui veulent œuvrer à la Constitution. À la construction d'une Europe unie. Ça a été fondé en 1948, son premier président était Winston Churchill. Très important, notamment à l'origine du Conseil de l'Europe, en 1949, de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces réflexions ont inspiré Jean Monnet lorsque celui-ci a proposé à Schuman en 50 la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Pierre de l'Europe actuelle, hein, quand même, il faut bien comprendre. L'association se veut pluraliste, intègre des personnalités de droite et de gauche, mais de la société civile. Dans un premier temps, c'était plutôt un mouvement qu'on dirait unioniste, c'est-à-dire partisan d'une coopération intergouvernementale entre les États. Et aujourd'hui, les fédéralistes ont pris le dessus, donc c'est un mouvement aujourd'hui qui est clairement fédéralistes, qui veulent un gouvernement fédéral. C'est très très important de mentionner ça. Alors comment est financé ce mouvement européen? Selon un journaliste américain qui s'appelle Evans Pritchards, le mouvement européen a été financé par la CIA avec pour mission de pousser à la constitution d'un Parlement européen. Les leaders du mouvement européen, Robert Schuman, SPAC, étaient directement financés par l'agence américaine à travers des fondations Ford et Rockefeller. Alors ça nous a paru un peu gros, on a fait des recherches hier.
Encore un coup de la CIA.
Pendant la conférence de rédaction. Et on est tombé sur un livre d'un Français qui s'appelle Frédéric Charpier, je vous recommande, qui s'appelle « La CIA en France, 60 ans d'ingérence dans les affaires françaises » que vous trouverez chez Seuil. Et qui, en pages 178 et 179, dit « De toutes les contributions de la CIA à la cause européenne, la plus importante a sans doute été la campagne de soutien au mouvement européen, lancée en 1951 par Shepard Zones. Ce monsieur travaillait pour la fondation Ford et il était très très horrifié parce qu'il y avait une très grosse manifestation. La jeunesse de Berlin-Est à cette époque-là faisait des manifs régulièrement pour s'opposer aux bellicistes occidentaux. Enfin, c'était... Et alors là, les Américains qui étaient installés en Allemagne de l'Ouest commencent à flipper sérieusement. Ils disent au mec, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, au lieu de répliquer par un truc un petit peu violent, les dirigeants lui ont dit, écoute, on va te proposer une campagne de longue haleine. L'idéal, ce serait d'amener les jeunes vers les thèses d'une Europe unie. Tu vois, c'est un truc qui soit un peu cool.
Qu'est-ce que je te disais juste avant, ce mouvement Europe unie?
Voilà. Voilà. Ah, tu l'as connu, l'Europe unie, ouais. Toi. Alors, ils ont accepté cette idée. Ils ont fait une campagne qui a duré de 1951 à 1959. Pour vous donner une idée, en 1952, pour vraiment prendre une idée, 1900 sessions et conférences, 1 800 000 brochures, 900 projections cinématographiques, tous les frais sont couverts par la CIA. Mmh. En 1975, le magazine londonien Time Out, premier à livrer des chiffres précis, révèle le rôle de la CIA et l'importance des fonds qu'elle a consacrés au mouvement européen. Voilà d'où, sur quelle base s'est faite la construction de l'Europe. Rappelons que Daniel Cohn-Bendit et Moscovici ont alimenté la branche française de ce mouvement, je le dis.
Et là où tu as complètement raison au niveau de ce début d'analyse, c'est que j'avais un copain qui me disait toujours, il me disait, en me parlant de ce genre de choses, parce que quand tu vois l'antériorité, je veux dire, maintenant ça commence à faire du bruit. Il me disait, tu sais ce que c'est? C'est dommage de guerre.
Voilà, c'est ça, exactement. Quand on disait qu'on a payé avec le plan Marshall, qu'on a perdu et De Gaulle a limité les dégâts, on imagine ce que ça aurait pu être dans certains
absolument.
Cas, mais nous avons perdu totalement notre liberté avec le plan Marshall. Et ça, un jour, on aura peut-être l'occasion de...
Et notre cher président a renoué...
Lui, il a accéléré le processus, lui.
Est revenu totalement en arrière par rapport à ses prises de position gaulliennes.
Oui.
Gilles, il nous reste 3 minutes sur ce sujet. Tu nous parlais donc de Mario Draghi, qui est le type qui vient de remplacer, qui est donc maintenant président, le nouveau président de la Banque Centrale Européenne, parce qu'on vient évidemment pendant cette crise de faire le jeu des chaises musicales. Et on rajoute un troisième personnage qui s'appelle Mario Draghi, qui est un...
Voilà, il y a Monsieur Trichet est parti il n'y a pas longtemps. Hein, c'était le président donc, de la Banque Centrale Européenne, qui est censé nous sortir de la mouise. Hein. C'est eux qui ont peut-être la solution. C'est qu'effectivement, si tout passait par cette Banque Centrale, c'est-à-dire C'est-à-dire, si les pays empruntaient à la Banque centrale plutôt que d'aller emprunter aux Chinois ou ailleurs, à des taux corrects, et c'est les fameux Europe Fund, là, je ne sais plus comment, bond.
Les Eurobonds.
Les Eurobonds, pardon. Voilà. Et, mais il paraît que ça va prendre du temps, tout ça, que ce n'est pas facile à mettre en place, etc. Cependant, ça serait la solution pour éviter cette spéculation sur les pays qui sont en train de plonger.
Oui, mais, pour pousser pour pousser vers une mondialisation totale de l'économie aussi.
Il y a une grande
aussi,
résistance, hein. Parce que souvenez-vous quand même, les garçons, que M. Trichet est d'obédience socialiste. Hein.
Oui, ah, mais ça
comme
n'empêche pas.
Comme Pascal Lamy. Hein.
Là, aujourd'hui, les auditeurs vont avoir l'impression qu'on vote à droite ou à l'extrême droite. Hein, parce qu'on n'arrête pas de balancer sur les socialistes. Mais non, c'est juste pour équilibrer un peu
mais
le
bien
truc.
Sûr.
Bien sûr qu'il y a des gens de droite et d'extrême droite dans ce genre d'organisation. Bref, pour revenir à ce Draghi. Monsieur Draghi, eh bien, lui aussi a fait ses classes chez Goldman Sachs.
Là. Vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs entre 2002 et 2005.
Voilà. Non, mais on les a, là. Et puis, bon, on n'invente rien, on ne découvre rien. C'est la une de Mediapart ce matin. Les trois principales têtes de Goldman Sachs qui sont à la tête de ce merdier, mais de façon très technocratique, très bancaire.
Tu nous excuseras, Bertrand, ce n'est qu'une dénonciation ordinaire.
Voilà, on ne rentrera pas dans le fond du sujet, jamais. Hein. Alors, Goldman Sachs, on va finir là-dessus.
J'aimerais bien connaître un petit peu leur vie privée, quand même, ces gens-là.
Goldman Sachs, connu sous le nom de la firme. Si tu veux, Goldman Sachs, connu sous le nom de la firme. Banque d'investissement au départ, tu disais 1869, tu as raison, situé à New York. Leur domaine de compétences, bah, il est assez diversifié.
Il s'appelait Goldman au départ, hein, et après Sachs est devenu, après c'est un gendre. Hein,
ah,
c'est
je comprends mieux, la chanson Il suffira d'un signe.
Voilà, voilà. Jean-Jacques étant qu'un petit neveu de... Non, je déconne, hein, bien sûr. Rien à voir, on a failli le mettre en pause musicale, mais on n'avait pas, on est désolé.
On a eu honte. Il compte notamment des activités de conseil, de financement d'entreprise, investissement de capitaux, blablabla. Alors, sachez quand même, pour l'anecdote, parce que vous allez voir, c'est marrant aussi, une première crise financière pour la firme en 1970, c'est ce que tu disais en début d'émission, Gilles, la Penn Central Transportation Company.
Ouais, what a wonderful accent.
Les trains, la compagnie des trains fait faillite avec 80 millions de dollars en papier en circulation.
Voilà. En plus, ils se sont plantés plus d'une fois.
La plupart émis par Goldman Sachs. La faillite était de grande ampleur, les poursuites en découlant menaçaient la vie de l'entreprise. C'est cette faillite qui a entraîné la création de notations de crédit pour chaque émetteur de papier commercial aujourd'hui émise par plusieurs services de notation.
C'est-à-dire que c'est une faillite qui a créé, les agences, qui était à l'origine de la création des agences de notation.
Mais c'est une faillite de Goldman Sachs qui a amené...
Qui est en train de nous la mettre bien profond en ce moment, Bertrand.
Que c'est bon tout ça.
Ouais, mais tu sais que les faillites, en général, c'est la conséquence d'une organisation de plans de financement, hein, c'est tout. Hein.
Ah, ça n'est que ça.
Bien souvent, c'est complètement bidon au niveau de la réalité financière.
Ça peut s'appeler une faillite frauduleuse, d'ailleurs.
Voilà. Ouais, mais bon, t'es pas obligé...
C'est puni par la loi, normalement.
Ouais, c'est puni, mais t'es pas obligé de la qualifier comme ça. Il suffit que tu dises qu'elle n'est pas frauduleuse, ou tu dis pas qu'elle puisse l'être, et puis tout s'arrange.
Et d'ailleurs, une faillite, c'est toujours beaucoup plus embêtant quand on a de l'argent que quand on n'en a pas.
C'est vrai.
D'ailleurs, quand on n'en a pas, on a intérêt à faire faillite. Ouais. Voilà, d'accord.
Allez, on termine sur Goldman Sachs. Une crise financière, on vient de le voir. Alors, grosso modo, leur histoire, c'est très simple. En 98, ils se font allumer parce que pendant la crise financière russe, ils ont conseillé la Russie, tout en spéculant contre sa capacité à payer la dette. Faut savoir que sa rentabilité moyenne annuelle à Goldman Sachs est 29%. Ça quand même à comparer du 19% du secteur financier américain et du 1% de la grande distribution. On peut préciser également que pendant la deuxième partie de 2007, Goldman Sachs est la seule entreprise dans le domaine financier à ne pas avoir perdu d'argent en anticipant la crise des subprimes.
Les 29% dont tu parles, là, c'est la totalité de leurs bénéfices.
C'est la rentabilité moyenne annuelle.
La rentabilité
des
moyenne
propres,
annuelle.
Des fonds propres, pour être
ça. Des fonds propres. Ils ont anticipé cette histoire d'emprunt toxique à l'époque, des subprimes. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des délits d'initié?
Complet, mais ça n'a pu être qu'un délit d'initié. Pour précision, ça, c'est en 2007 qu'ils n'avaient pas perdu d'argent. Et en 2008, alors par contre, en 2008, ils en ont perdu plein pot. Et alors, à quoi ça a servi? Et ben, ils ont demandé l'approbation de la Fed américaine, la réserve fédérale, et ils ont changé de statut. C'est-à-dire qu'ils sont passés de banque d'investissement, ils sont devenus holding company du pays.
Mmh. Et alors, ils ont pris du pognon.
Ils ont bénéficié, et c'est trop fort, des liquidités de la réserve fédérale débloquées par un truc qui s'appelle le plan Paulson. Et Henry Paulson, c'est pas compliqué, il était purement et simplement ancien président et directeur de la banque.
Renflouer les banques.
Voilà, il est passé en politique. Alors, il y a des critiques qu'on soulevait qu'il y a peut-être un possible conflit d'intérêts. Ce sauvetage n'est pas sans contrepartie. Le capital de Goldman Sachs change de main. Warren Buffett entre officiellement dans le capital de
le
la
fameux
banque,
milliardaire
en injectant
5 connu.
Milliards. On précisera qu'en 2008, la banque a reçu 13 milliards de dollars qui lui étaient dus par un groupe qui lui-même avait été renfloué par la Fed. On précisera qu'en 2009, le magazine Rolling Stone, excellent magazine, publie un article d'un écrivain politique où ce dernier accuse Goldman Sachs d'avoir provoqué la plupart des manipulations de marché ou bulles lors de ces 80 dernières années. On précisera pour l'anecdote qu'ils ont investi 500 millions à la conception du site internet Facebook. Ça devrait faire réfléchir certains.
Je suppose que le changement de statut a occasionné, bien sûr, une modification des actionnaires.
Bien évidemment. C'est là qu'on a vu rentrer Warren Buffett.
Ils ont fait un chiffre d'affaires de 51 milliards cette année-là.
Ça va.
Quand même.
Voilà, messieurs, pour ce premier sujet. On va peut-être faire une petite coupure musicale. Gilles me fait des grands signes en me disant oh là là, on parle beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu complexe. Mais
ah ben bah là, on a été au fond, Bertrand.
On parle, voilà. J'espère, Bertrand. Ça va, Bertrand?
Petit nouveau sur la scène de la chanson française, Alcide, et on aime bien tout ce qui sort à Radio Saint-Aff, les nouveautés, ce qui passe pas ailleurs. L'album s'appelle La Balade en Corbillard.
Et appelé pendant la coupure, hein.
Alcide.
Dans mon entreprise, on ne bosse guère par gourmandise. On remplit juste nos assiettes en rêvant de la retraite. Sur les plaquettes du recrutement, le travail semble enrichissant. Mais la vérité nous rattrape et la motivation nous happe. On n'a jamais vu la lune qu'on nous a fait miroiter. Mais on reste pour la thune, faut bien payer le loyer. Dans mon entreprise, c'est comme deux doigts dans une prise. Il faut sourire au patron, même si c'est vraiment un con. Dans mon entreprise, c'est comme deux doigts dans une prise. Il faut sourire au patron, même si c'est vraiment un con. Dans mon entreprise, on nous parle d'égalité. Mais le machisme est catéchisme, car les femmes font des bébés. Grâce à des gens consciencieux qui s'appliquent à travailler, il y en a des plus ingénieux qui sont payés à glander. Faut que ça crache pour l'actionnaire, on est sa chair à canon. Il nous remercie, c'est clair, en licenciant par wagon. Dans mon entreprise, c'est comme des doigts dans une prise. Il faut sourire au patron, même si c'est vraiment un con. Dans mon entreprise, c'est comme deux doigts dans une prise. Il faut sourire au patron, même si c'est vraiment un con. Dans de longues formations, on nous apprend bien l'éthique. Mais prendre le client pour un con reste la meilleure des tactiques. On est citoyen du monde, mais c'est que sur le papier que l'on imprime à foison en zigouillant des forêts. Dans mon entreprise, c'est comme des doigts dans une prise. Il faut sourire au patron, même si c'est vraiment un con.
Voilà, même si c'est vraiment un con, retour sur les tontons flingueurs, 10h41, nous sommes en
c'est
direct.
La clé du bonheur.
Vous pouvez toujours nous appeler pendant un petit quart d'heure.
Mais tu sais, mon grand-père me disait, tu te méfieras parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tous les gens sont des cons. Mais je ne suis pas persuadé que tous les cons soient des gens.
Voilà, bah, joli.
Voilà. Et il y a de plus en plus de cons, mais on a l'impression que ceux de l'année prochaine sont déjà là.
Tu veux dire qu'il y a de moins en moins de gens.
05 65 49 29 94 pendant encore un petit quart d'heure. Alain, toi, tu veux te faire le téléthon?
Oh, je veux rien me faire du tout. Je veux simplement, une fois de plus, donner le ton, ouais, sur tout ce qui caractérise les opérations caritatives qui ne sont en fait que des dissimulations financières quand ce ne sont pas simplement des escroqueries.
Bon, il y a quelques bons sentiments dedans. Il n'y a pas que des escrocs.
Oui, non, mais c'est même chez les escrocs, il y a des bons sentiments.
si tu le dis.
Ben ouais, ça dépend où tu places les sentiments. le problème, c'est que de plus en plus, quoi, quand on est amené à décortiquer, parce qu'effectivement, moi qui ne suis pas équipé de l'informatique, je reconnais volontiers que pour aller chercher au moins des débuts d'informations, j'ai pas tout eu.
Il va y venir.
Pas eu toutes les infos par l'informatique. J'ai quand même quelques vieilles relations de copains qui m'ont donné des renseignements supplémentaires, mais je me contenterai simplement de parler de ce que vous aussi, vous pouvez retrouver. Donc, il s'agit bien sûr du Téléthon. Ça est que c'est une organisation financière d'importance, avec une particularité, c'est que cette année, l'Éducation nationale a signé avec l'organisation du Téléthon. Et c'est-à-dire qu'ils officialisent la relation qu'ils ont avec cette organisation du Téléthon. Et le problème, c'est que ça a une incidence, ça aura une incidence sur le jugement et les notes et les notations à destination des enfants à partir du moment où...
Attends. Non, t'es sûr de ton truc là? Ils prennent carrément les enfants en otage.
Il y a donc des parents d'élèves qui, au moins sur Sainte-Afrique, se sont intéressés à l'histoire, surtout au niveau du lycée, puisque c'est surtout, en la circonstance, c'est surtout là que ça va se passer. Quoique j'ai cru comprendre que ça se passait aussi dans les écoles primaires. Donc, ce parent dit, mais en tant que parent, je me permets de réserver mon autorisation à ce que mes enfants participent à une éventuelle action au profit du Téléthon, dans l'attente de précisions sur cette association et son fonctionnement, dont je souhaite avoir connaissance, à savoir quel est le bilan financier détaillé de cette association, même si elle a reçu l'aval du ministère de l'Éducation nationale de cette action, le coût détaillé de son organisation, les émoluments des présentateurs, frais matériels, hébergement, restauration, frais de coiffeur, etc. L'utilisation précise, ça c'est le deuxièmement, utilisation précise des fonds récoltés, répartition par poste, le montant des prélèvements obligatoires de l'État, mais aussi le montant du matériel acheté pour la recherche, ainsi que le taux de TVA auxquels ils sont soumis. Par revenant, bien sûr, aux caisses de l'État, les coûts d'utilisation des locaux, les salaires, etc. Ainsi que le nom des établissements, ça c'est bien vu, que le nom des établissements financiers dans lesquels sont placées les sommes récoltées.
Ah, c'est pas bête,
le
ça,
montant
ouais.
des intérêts ouais. qu'elles produisent et bien sûr le destinataire de ces intérêts. De plus, alors ça j'aime beaucoup aussi, il serait à mes yeux très éducatif de faire réfléchir les élèves à ce qui est à leurs yeux véritablement citoyen et solidaire dans ce type d'action. En premier lieu, de réfléchir aux causes mêmes de l'existence de ce besoin de financement par la population, jamais évoqué ni remis en question.
Ouais.
L'éducation n'a-t-elle pas un rôle à jouer? L'expression de la citoyenneté ne commence-t-elle pas par l'observation, la réflexion sur les intérêts préalables, les intentions préalables d'os actes, l'information avant la décision et la participation par choix en toute action et en toute conscience?
Mais c'est hallucinant, il y a moyen de signer un truc là-dessus? C'est un truc de fou, moi. On a pas envie que nos gamins aillent
cautionner. Tout à fait. Non, mais là c'est, attention, là c'est la réaction tout de suite. Réaction, d'accord. Ceci dit, c'est pas parce qu'il y a des pourris qui font certaines choses où il y a des gens qui plaident pour le côté moderne de toutes ces ONG qui font des choses pour ne rien faire non plus. Est-ce qu'il faut laisser tomber effectivement tout ce qui est caritatif?
Moi je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de présence réelle du citoyen dans ces affaires-là.
On n'en sait rien, on n'a pas la destination, comme tu dis.
Exactement.
Il y a plein de questions qui ont été soulevées.
Tu sais, on prend un peu les
petits myopathes en otage dans cette histoire-là montrant à la télévision.
C'est le fait de faire accepter aux citoyens le transfert d'une responsabilité d'État, qui est la santé publique, a priori, de transférer comme la nécessité de nourrir les gens avec les restos du cœur.
C'est vrai,
c'est bien beau.
D'ailleurs, c'est ce que dit ce
plutôt que d'acheter des sous-marins nucléaires,
ensuite,
c'est vrai.
Elle dit ensuite, à partir d'expériences personnelles, je ne suis plus persuadé depuis longtemps qu'il y a un besoin de charité, encore moins de condescendance, des personnes handicapées qui se retrouvent stigmatisées suite à de telles journées qui constituent un acte libératoire, la bonne action de l'année pour bien des personnes, etc. etc.
Voilà,
je continue sur la structure même. La structure même, vous savez aussi bien que moi qu'elle a été à plusieurs reprises dénoncée par Monsieur Berger, qui je n'accorde qu'une confiance tout à fait relative. C'est aussi un très très gros bourgeois. Il en est pas moins vrai qu'il a le droit lui aussi de s'exprimer. J'allais presque dire, il a plus que les autres le moyen de s'exprimer sur ce qui se passe, et qui dit, c'est étrange à propos de l'association française contre la myopathie. C'est étrange que cette association caritative ait par exemple 7 millions d'euros de produits financiers. Alors je me suis intéressé au truc.
Ah,
alors effectivement...
C'est-à-dire qu'il place l'argent...
Effectivement. Alors... pour être tout à fait exact, l'AFM a 141 millions d'euros placés en produits financiers. D'une garantie sur le capital.
Ce sont donc des dons, ça, c'est les dons.
Absolument,
qui
c'est prélevé sur les dons. Malgré la crise, ces intérêts ont rapporté donc 7 millions d'euros d'intérêts.
Mais déjà, ils ne se sont pas trompés d'investissement.
L'AFM a aussi 52 millions d'euros placés sur des produits à moyen terme. En plus, l'AFM dispose par ailleurs de participations dans les entreprises valorisées à hauteur de 30 millions d'euros.
D'accord.
Voilà. Alors,
bon, ils ont fait leur petit dispatch, ils ont réinvesti les thunes, on va dire.
Ah ouais.
C'est de la gestion.
J'ai commencé.
S'il n'y a pas de perte, c'est voilà.
Je veux dire, il est quand même. Tu sais, c'est comme dans d'autres situations de budgétivore, c'est quand même vachement facile de gérer de l'argent que tu n'as pas besoin de gagner. Quand tu as besoin de gagner de l'argent et le gérer ensuite, là, c'est pas la
faute. Juste une petite précision très importante, quand même. Rappelons quand même que l'AFM avait, dans les premières années, le prix de la transparence en termes de gestion qui lui a été retiré à la troisième ou quatrième année d'exercice. Ouais. Précisons-le, c'est important.
Voilà. Alors donc, j'ai fait un petit calcul, premier calcul, à propos de ces placements. L'AFM a donc, dispose donc en placement de 223 millions d'euros. Voilà. Ensuite, les dirigeants, eux, tout seuls, ils touchent quand même 315 000 euros d'émoluments. La présidence, Laurence Thiénot-Hermant, très intéressant, on n'aura pas le temps d'en parler, mais la provenance de cette dame, tu vois, 70 000 euros, elle, toute seule. Là-dessus, il faut bien comprendre que sur ces émoluments...
Un petit 5 000 par mois.
Présidente de l'association, t'as bien dit ?
Présidente de l'association.
Depuis quand un président est rémunéré, le président de l'association ?
Ah ben non, c'est comme ça.
C'est du défraiement, peut-être.
Et alors, bon, là-dessus, je vous fais grâce du prélèvement social obligatoire, qui est de l'ordre de 50%, autrement dit, 192 000 euros. Ensuite, on regarde. Alors là, ça commence à être intéressant pour 2010. L'astuce des frais décomposés. Alors ça, c'est extraordinaire. T'as par exemple frais de collecte, 13 millions. Frais de collecte. Ensuite, dans la décomposition des frais, frais d'appel aux dons, 8 millions. Frais de traitement des dons et des legs, 24% de la collecte, autrement dit, 3,4 millions. Le coût des émissions, égale 1,8 million. J'ai fait le total.
Mais je croyais que c'était gratuit, les émissions, non ?
Ah oui, non, mais ça, c'est le coût de l'émission. Parce que tu comprends, il y a des astuces comptables. Ça veut dire que tu changes la ligne comptable et du même coup, tu te retrouves dans l'émission, par exemple, avec des animateurs qui ne sont pas payés. Alors, ils ne sont pas payés dans la ligne comptable du coût de l'émission, mais ils sont payés dans la ligne comptable de la communication ou de la publicité.
D'accord.
Donc là, ça te fait, par exemple, rien qu'en frais, là, t'en as pour 25,9 millions. Tu vois, je continue.
Quelle est cette source, Alain, actuellement, là, les infos que tu nous donnes ?
Ça vient d'où, tout ça, ouais.
Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Ah. Ça m'a été communiqué par les gens qui ont écrit le texte que tu as
Qui
entendu.
Se sont émus de,
absolument.
Du fait de
Alors donc, tu vois marqué, par exemple, en revanche, alors, le coût de production de l'émission, donc, c'est France Télévisions qui facture quand même environ 30% du budget total de l'émission. En revanche, les animateurs, les artistes intervenant dans l'émission ne sont pas rémunérés sur le coût de production de l'émission. Mais ils sont rémunérés. Donc, en récapitulatif, nous avons placement 223 millions. Hein, salaire 395 000, dont URSSAF 182. Frais de collecte, appel de traitement 25,9 millions. Communication 3,1. Soit au total arrondi 30 millions. L'État prélève donc 50% sur les charges sociales inhérentes à tous ces postes et 19,6% sur les prestations ou de services ou les taxes diverses,
l'État gagne
y compris le montant de la TVA.
L'État gagne de l'argent.
L'État gagne donc,
c'est fabuleux.
L'État gagne donc au total 29 millions de taxes diverses.
C'est pas mal. Ouais, mais je repose la question, est-ce que c'est pour ça qu'il faut rien faire? Et je me mets à la place des auditeurs et des gens, je connais des gens au niveau local, dans le sud d'Aveyron, qui sont investis, qui ont des enfants handicapés, etc., et pour qui le Téléthon est quelque chose de fondamental.
Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer le Téléthon, je suis simplement en train de donner ce qui caractérise la réalité comptable d'une association
comme ça.
Hein, tu regardes, par exemple, en fait la seule action qui leur coûte 20 millions d'euros, une action directe à destination des gens dont tu parles, c'est-à-dire la gentillesse de ceux qui travaillent pour le Téléthon, comme ceux qui sont dans la peine, si tu veux, quand ils sont au niveau familial
concernés directement.
Voilà. Eh bien, l'action auprès des malades et de leurs familles, ça coûte en tout et pour tout 20 millions.
Alors, on peut peut-être encourager justement les gens qui vont finir par se demander quoi faire. Finalement, ces informations font un petit peu peur. On peut simplement vous encourager, si vous êtes concerné ou si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, à directement demander des comptes, entre guillemets, à l'agence locale, à l'agence régionale du Téléthon pour essayer d'en savoir plus.
Donc, si tu veux bien, je termine parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants.
On n'aura pas le temps de faire d'autres brefs.
Dans
si
le
termine,
poste,
là,
non.
Il n'y aura pas d'autres sujets.
C'est pas grave.
Si tu veux, j'aurais Gilles balance une info locale. On a quelque chose d'important. Mais termine là. Si tu as quelque chose de complémentaire, évidemment, il faut terminer. C'est important.
Non, mais je voulais dire simplement que ce qui est intéressant, c'est dans le poste communiqué. Voilà des gens qui financent les visites des labos qui les ont financés.
D'accord, c'est
fabuleux.
Info, effectivement,
oui, je me disais bien que les laboratoires ne devaient pas être très loin.
Avant de céder la parole, Gilles, je complète avec un chiffre intéressant et à mettre en parallèle. Vous savez que le coût de l'armement en France, sur la planète, l'ensemble des frais consacrés à la guerre et aux armes sont de 1200 milliards de dollars, dont 53 milliards pour la France, numéro 3 sur la liste. C'est à mettre en exergue.
Voilà, et on nous donne toujours l'Allemagne en exemple, mais l'Allemagne a une armée et un budget militaire beaucoup plus restreint que celui de la France, bien entendu, ils n'ont pas de force de frappe.
Gilles, une info locale.
Petite info locale, donc, c'est un appel à tous ceux qui sont pour ou contre l'éolien industriel. Samedi 26 novembre, au Cap-Vert, au complexe d'accueil Cap-Vert, à 21h à Sainte-Afrique. Donc, samedi 26 novembre, venez vous exprimer, car la région a été choisie, figurez-vous, pour construire la majorité des futurs 600 éolienne industrielle.
Voilà, industrielle.
Savoir que donc le futur méga transformateur qui a suscité beaucoup de polémiques à Saint-Victor et Melvieux pourrait connecter jusqu'à 800 éoliennes, c'est-à-dire que notre beau pays deviendrait un peu changé.
Parc naturel.
Voilà. Il est urgent donc que les habitants et futurs voisins de ces installations aient connaissance de cet impact et viennent s'exprimer. Alors il y aura tout. Il y aura un collectif associatif des énergies alternatives. Alors, on ne sait pas ce que ça cache, effectivement. Il y aura les pour, les contre, quel que soit votre avis là-dessus, allez vous exprimer.
Réunion d'information, voilà. Très important, c'est un auditeur. Merci Jean-Marc pour nous avoir donné cette info. Je vous rappelle que vous pouvez également nous adresser par mail ou par
téléphone.
Et Marie
aussi. Marie nous a envoyé. Voilà. Elle est très concernée parce qu'elle a une maison pas très loin d'un champ d'éoliennes.
Nous avons eu une émission spéciale là-dessus, d'ailleurs, sur l'éolien. Encore une fois, il n'est pas question de faire du poujadisme de base, c'est-à-dire d'être contre tout ce qui est pour. Nous sommes bien d'accord que l'éolien est parfait.
Nous, ça fait 40 ans qu'on milite pour l'éolien.
Il s'agit là de la remise en question de l'éolien industriel, voilà. Et encore une fois de l'attribution des marchés ou des endroits où ce sera implanté.
Encore une fois, tout ce que touche l'État, il le transforme en caca.
Messieurs, avant de laisser la parole à Alain pour un petit communiqué, il nous reste 2 minutes. Je vous précise simplement que on avait prévu de faire un petit topo sur les Verts. La question, c'était ont-ils vendu leur chemise?
On n'a pas
le temps. Très brièvement, selon vous, les Verts, avec leurs histoires de négociations sur le nucléaire, en 1 minute, 1 minute 30, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alain, t'es au courant? D'accord, rien. On rappelle simplement que...
Si, apparemment, il y a eu un accord PS Vert, mais le lobby d'Areva du nucléaire est intervenu indirectement auprès des proches de François Hollande pour dire, mais attention, vous n'avez pas lu les petites lignes, là, etc. Vous êtes fait entuber. Et ils ont retiré un article concernant le MOX, toute la filière MOX.
C'est le retraitement. Simplement précis, c'est le retraitement.
Voilà, hein. Qui concerne bien sûr la Hague et
la
des emplois, etc.
Des déchets,
et apparemment, ils ont... Moi, ce que je dis, c'est que ces gens-là passent des accords sur des sujets qu'ils connaissent mal. Hein, ouais. Parce qu'ils se sont fait, ils se sont fait avoir, mais tous les politiques parlent du nucléaire, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, et n'y connaissent pas grand-chose. Ouais. Et ça, c'est vachement grave.
Ce qui est quand même important dans cette histoire, c'est précisons que les Verts ont accepté cet accord, parce qu'en cas de victoire du PS aux législatives, ils récupèrent 30 sièges de députés,
et
en
entre cas de 15
défaite,
et 30,
en cas de défaite, ils en récupèrent 15. Donc on est dans des petits accords électoraux.
Électoraux
hein.
Pour les législatives, avec le soi-disant mais, parachutage attends. Avec des guillemets de Madame Duflot à Paris.
C'est
quoi.
Quand même sacrément gonflant de voir des
mais
on n'a pas passé encore les
c'est
présidentielles. On n'a pas passé les présidentielles. Ils sont déjà en train de penser aux législatives.
Mais ils vont te justifier ça en te disant que c'est complètement voilà. logique puisqu'il faut avoir une après une victoire éventuelle de Hollande, il faut avoir une majorité et donc il faut parler de la majorité avant de.
Donc si les Verts sont contents d'aller rejoindre le conglomérat des gens qui vont nous faire passer la pilule pour l'élection que notre seul but est de défendre notre triple A, bien leur en face. Chacun voilà. jugera.
J'aimerais pas être à la place d'Eva Joly en ce moment. Ça doit pas être facile d'avaler son chapeau.
Et tu disais hier que si elle avait des couilles, elle démissionnerait pour parler.
Ah,
comment,
moi, il me semble.
Voilà. Alain,
oui.
Tu vas clore cette
oui,
émission, donc
clore, ouais.
Un petit
donc,
topo.
Depuis le jeudi 3 novembre, un élément d'une valeur toute relative a fait l'objet d'une éviction discrète. Devant ce qui aurait pu être une démonstration de mon hypothétique naïveté, je me serais pendant une fraction de seconde satisfait d'une remarque sur la caractéristique d'une disparition passée inaperçue. Les auditeurs fidèles à la secousse du jeudi matin m'ont eu la gentillesse de ne pas me mettre à l'abri de leurs redondantes critiques. Je me dois de répondre étant tout simplement l'énonceur de l'article 35 de la déclaration 1793 visée par l'exécution. C'est donc dans un souci radiophonique qu'il m'a été précisé que la majorité pensait souhaitable de suspendre le préambule de l'émission. En la circonstance, je précise que la vérité ne saurait être rébarbative puisque je n'ai pas été consulté. C'est la démonstration du caractère pervers de la démocratie qui fait que dans un vote à trois éléments, et quel que soit le sujet comme les avis, où il s'agit d'un vote unanime ou d'une majorité qui, inévitablement, sera des deux tiers. Nous sommes là dans l'impossibilité de nous retrouver dans une situation où la majorité serait de 50 plus epsilon. Ma fibre libertaire ne peut m'interdire de regarder avec bienveillance la mise en œuvre par mes copains tontons d'une pratique qu'ils défendent, c'est vrai, beaucoup mieux que moi, la démocratie institutionnelle. Je reconnais que chaque semaine, un appel à l'insurrection républicaine et citoyenne peut agacer les candidats au suffrage aussi. Pour éviter de me retrouver à nouveau dans une situation de fait accompli, je dirais avec la sérénité qui convient que j'aurais effectué aujourd'hui et avec grand plaisir ma dernière prestation dans l'émission des tontons flingueurs sur les ondes de Radio Sainte-Afrique. Écoutez-les, écoutez-les. Ça rappe comme le vin nouveau. Nous partîmes, nous étions une poignée. Bientôt, ça débordera sur les trottoirs. La parlotte, ce n'est pas un détonateur suffisant. Le silence armé, c'est bien, mais il faut savoir fermer sa gueule. Toutes des concierges, écoutez-les. Nous étions combien ? Ça ira. Signé Léo Ferré.
Je suis complètement d'accord avec la conclusion, en tout cas c'est une parfaite conclusion. Si Phil me fait des grands grands signes, donc
difficile
on vous fait un gros
de pas être d'accord avec Léo Ferré.
On est complètement d'accord. Ouais, bisous à tous, on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bon courage. Ciao.
Ciao. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous.
J'avais oublié les 10% d'amende pour la retard.
Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.